Alors, il y a plusieurs semaines, j'ai parlé des habitudes, un thème qui est relativement peu présent dans le Nouveau Testament, tel quel en tout cas. D'abord pour dire que nous nous en forgeons, consciemment ou non, et qu'en retour, elles nous forgent. Et je l'avais illustré par ce qu'on peut en voir dans la vie de Jésus lui-même. Et puis j'ai commenté ensuite un des deux passages de la lettre aux Hébreux où l'idée d'habitude, elle apparaît en traduction française. Voilà. Donc c'est le mot qui est en bleu, mais qui n'est pas toujours traduit par habitude, le mot pratique. J'avais disserté à ce propos en disant qu'en fait il s'agit plutôt d'habitus, qui est un terme latin, mais qui doit être dans le dictionnaire français, je pense, qui est la capacité à agir qui se développe dans le sujet quand il agit. Et plus simplement, c'est par exemple la capacité à conduire naturellement une voiture. Cette capacité devient de plus en plus naturelle au fur et à mesure qu'on conduit. Parce que les premières fois que vous passez les vitesses et que vous appuyez sur les pédales, ça se fait pas en même temps et ça fait des bruits bizarres dans la voiture, par exemple. Jouer d'un instrument de musique, etc. Et dans le texte d'Hébreu 5, il s'agit de l'habitus biblique, si je puis dire. La familiarité acquise et travaillée. Donc, familiarité qui est à la fois acquise et travaillée avec la Bible, dont l'absence chez les lecteurs préoccupait l'auteur. Car l'enjeu de l'habitus biblique, c'est la relation au Christ, ni plus ni moins. Voilà le résumé des épisodes précédents. J'aborde ce matin la dernière mention de l'habitude dans la lettre aux Hébreux, et probablement le dernier trait singulier qui est mis en valeur par le Nouveau Testament. Mais je commence par une escale préliminaire, sous forme de quelques souvenirs personnels, si vous me permettez, enfin, j'y vais comme ça. Alors, ce n'est un secret pour personne que j'aime lire. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je vous en informe. Et que s'il fallait me caser dans une des deux cases, le manuel ou l'intellectuel, eh bien sûr, il faudrait me caser dans la case du manuel. Parce qu'un livre, ça se tient à la main. Voilà, c'est manuel. Et d'ailleurs, ne parle-t-on pas d'un manuel de lecture, d'un manuel de je sais pas quoi, voilà, par exemple. Donc voilà, ça c'était pour la blague facile, mise à part. J'aime lire et je voudrais vous dire quelques mots de trois livres qui ont beaucoup compté pour moi, surtout le dernier. Mais je commence par le premier. Ah, c'est le suspense, là. Et je ne sais pas si quelqu'un aura deviné. C'est le suivant. Oui, oui, et la voiture jaune. Mais ne riez pas, fait trop tard, vous avez ri. Mais il se trouve que c'est vraiment, si ma mémoire ne me trompe pas, et elle ne me trompe pas, je crois, parce que j'ai ma mère qui a écrit des mots dessus. C'est le premier livre que j'ai eu entre les mains. Le premier livre qui m'a été donné, qui soit un livre à moi, pour moi. J'avais 5 ans, je crois. Et je l'ai toujours. Parmi les livres de théologie, il est un petit peu isolé, mais il est là. Le second, ben, vous ne serez pas surpris, c'est la Bible. Elle a croisé mon chemin quand j'avais environ 20 ans, je crois. Et à mon grand étonnement, elle est devenue ce qui est structurant d'une énorme partie de ma vie. C'est le livre que j'ouvre ordinairement tous les jours. C'est le livre que je cherche à entendre, à comprendre. C'est le livre où je cherche à entendre la voix de celui qui s'est livré pour nous, qui se livre à nous. Et c'est le livre autour duquel j'organise une grosse partie de mes achats de livres, de mes lectures, puisque dans la très grosse majorité des cas, enfin 99% des cas, au moins, ce sont des livres autour de la Bible ou des questions plus ou moins associées. Donc pour moi et pour d'autres, et pour la plupart d'entre nous, j'imagine, c'est le livre par excellence. J'en arrive au troisième, que j'ai dû croiser, alors là je ne sais pas exactement quand, mais c'était autour de l'âge de 25 ans à peu près, je pense. Mais c'est tout récemment que je me suis rendu compte de l'importance qu'il avait joué dans mon histoire. Et c'est un petit peu en fait un ovni, un objet volant non identifié, un objet lisant, enfin non, étant lu, non identifié dans les parutions évangéliques. Parce que franchement, je crois que ça attire pas beaucoup de personnes. Je ne sais pas comment vous allez réagir, un cri d'effroi tout à l'heure en le voyant. Et je suis presque étonné qu'il se soit trouvé en librairie évangélique. Et c'est le suivant, qui est signé par Alfred Kuhn, qui est décédé maintenant. Comment étudier ? Méthode de travail intellectuel. Et il y a une édition plus récente. Voilà, peu importe, vous le faire voir. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi je l'avais emprunté à la bibliothèque de la CLC, la librairie chrétienne. Probablement parce que c'était une bibliothèque et que c'était gratuit. Je ne l'aurais probablement pas pris autrement, pas acheté autrement, à l'époque en tout cas. Mais en tout cas, j'étais bien loin de mesurer l'impact que ce livre aurait sur moi et qu'il a toujours sur moi. Je vous donne quelques titres de chapitres pour situer. Organiser son travail et son temps. Se fixer des objectifs, lire avec profit, prendre des notes, classer ses documents. Et en fait, je crois que c'est un livre qui est destiné à apprendre les lecteurs à apprendre. Apprendre à apprendre. Et c'est avec sa lecture, je crois, que j'ai commencé à lire en prenant des notes sur... pas tous, mais la plupart des textes que je lisais, dans des cahiers à part. En voici un, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc, c'est des notes prises sur des... Bon, bref, n'importe. Voilà, il y en a un bon paquet de cahiers comme ça. Ou bien, ce que je fais maintenant plus facilement, j'écris sur le livre lui-même. Je lis une page, je mets un résumé en haut de la page pour avoir à éviter à la relire. Pour avoir à éviter de la relire, je souligne, enfin voilà, c'est des suggestions de Kuhn. Donc, mais l'idée, c'est pas tellement de faire ça, c'est d'être dans une posture d'interaction avec ce qu'on lit. De pas lire comme ça, et puis on passe la page suivante, non, de dire, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi, comment je réagis? Je note en bas de page mes réactions, par exemple. Pour donner un exemple. Et en fait, je suis loin d'avoir tout retenu, ou mis en pratique. Par exemple, le classement des documents, alors là, c'est une catastrophe. Mais c'est trop tard maintenant, il y en a trop. Mais je fais l'hypothèse, en tout cas aujourd'hui, avec le recul de l'âge, que si je n'avais pas eu cet outil entre les mains, avec ce que je suis aussi, bien sûr, ce que je suis porté, ce que j'aime et ce que je suis porté à, là où je suis porté à m'impliquer, il y a bien des choses que je ne ferais pas aussi naturellement que je les fais aujourd'hui. À partir des conseils, j'ai intégré des habitus et je suspecte qu'ils font une différence énorme par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance. Et c'est un peu comme taper à la machine avec les 10 doigts, hein, sans regarder. C'est un mois de souffrance, mais quel gain ! Quel gain ! J'utilise plus la machine que la voiture, enfin, taper au clavier que conduire. Donc, avec Kuhn, comme avec le manuel de dactylographie, j'ai appris, j'ai intégré des habitus. Et j'ai appris un peu à apprendre. Alors, vous me direz, c'est bien mignon tout ça, mais ce qui me frappe, en fait, à travers ces trois étapes, et ce qui va nous rapprocher, enfin, de l'Épître aux Hébreux, c'est le simple fait que ces habitus acquis, ces habitudes qui ont été prises, je mesure en fait que je les dois à d'autres. À d'autres. Je les dois à ceux qui m'ont appris à lire. C'est tout bête. Mais vous aussi. J'ai projeté des diapos avec du texte. On a chanté tout à l'heure à partir de textes. Et la plupart d'entre vous, vous avez lu, nous avons lu. Et nous avons lu sans difficulté, la plupart d'entre nous, sans même nous rendre compte que nous lisions. Mais ce n'était peut-être pas le cas, et je crois que ce n'est pas le cas de tous d'entre nous. Lire ne va pas de soi. Et c'est parce que nous sommes entrés dans la communauté nous sommes les héritiers de la communauté des personnes qui lisent, que nous pouvons partager avec eux et chanter ensemble ce matin. Nous pouvons leur écrire, ils peuvent nous lire, nous pouvons les lire. Je dois aussi ce que j'ai reçu à ces aventuriers, nous devons, je le dis en jeu pour pas vous imposer nécessairement ma façon de voir, je les dois à ces aventuriers, à ces découvreurs de l'histoire humaine, ces découvreurs de l'écriture, ces découvreurs de l'imprimerie, ces découvreurs qui ont eu l'idée d'associer à un son des signes qui expriment le son. Je dois ce que je suis à la communauté de ceux qui ont appris et qui ont essayé de comprendre comment ils avaient appris et comment ils pourraient transmettre à d'autres ce qu'ils ont appris et comment ils pourraient apprendre les autres à apprendre. Et étonnamment, il se trouve que je suis en mesure de transmettre une partie de ce que j'ai reçu à mon tour. Et chacun d'entre nous, parce qu'on a reçu quelque chose, on peut transmettre des choses. Peut-être pas tout, mais une partie des choses. Tout ça pour dire que sans communauté, et j'emploie le mot communauté au sens large, hein, rien de tout cela n'aurait existé. C'est la communauté qui me porte. C'est la communauté qui nous porte, je crois. Et si j'élargis, je dirais que je mesure combien, ou un petit peu combien, parce que je suis en rapport, en relation avec d'autres, alors certaines pratiques, certaines façons de faire me sont devenues très, très familières. Ça peut être une communauté d'intellectuels, si je peux employer ce langage. Et vous savez que j'ai repris des études en fac il y a 3-4 ans maintenant. Et en entrant dans les matières où je suis rentré, qui n'étaient pas des matières très, très familières, j'étais perdu au départ. Enfin, j'étais en partie perdu. Mais à présent, je vois après 4 ans combien de choses se sont mises en place, tout simplement. C'est spontané, j'ai pas besoin d'explication, c'est fluide. Mais ça peut être une communauté de personnes qui font du tricot. J'ai jamais fait, je serais perdu si je devais faire du tricot. Et même si on n'est pas en contact physiquement avec les personnes, si vous allez chercher des informations sur Internet, c'est l'une d'entre vous, enfin elle n'est pas là ce matin, qui me disait qu'elle allait voir des vidéos sur le tricot. Et c'est parce qu'il y a une communauté de tricoteurs ou de tricoteuses qui mettent ces vidéos en ligne. Et ils le font aussi, elles le font parce qu'il y a des communautés virtuelles qui utilisent l'informatique et qui... Et cette conjonction de compétences se fait. Qu'est-ce que nous sommes sans communauté? Et cette dimension de communauté, eh bien, elle apparaît donc dans la dernière mention de l'habitude du Nouveau Testament, dernière mention explicite en tout cas, parce que vivre en Église, c'est aussi une habitude, un habitus. Oui, je vais montrer l'image de ce que donne la communauté. La lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude, voilà le mot, de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Et bien sûr, enfin, je dis pour ceux pour qui c'est pas évident, le jour en l'occurrence, c'est le jour du Seigneur, le jour attendu du Seigneur. Et je voudrais juste sur ce texte faire trois remarques. Tout d'abord, c'est que ce texte, je crois, nous rend attentifs à la mobilité potentielle des habitudes. Comme à l'époque de la lettre, je peux prendre l'habitude de participer à la vie communautaire, aux réunions ou à certaines réunions, cultes, réunions de prière, études bibliques, groupe de dames, si vous êtes une dame. Et je peux prendre aussi l'habitude, peut-être même sans le vouloir, sans le calculer, de ne pas m'intéresser à ces moments de rencontre et ou bien l'habitude de les délaisser. Ça veut dire que je m'y suis intéressé un temps, puis je m'y retrouve plus pour des raisons qui sont parfois, enfin, qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais ce que je veux retenir de ce texte, c'est cet appel à la prise de conscience, à la vigilance, l'appel à la responsabilité. Les habitudes, qu'elles soient chrétiennes, si on peut qualifier des habitudes de chrétiennes, mais les habitudes se prennent ou se déprennent, qu'elles soient chrétiennes ou non. Certaines sont importantes à prendre, et d'autres, il est important de s'en déprendre, de s'en garder. Alors je fais une parenthèse, mais ça me vient là. Je suis très reconnaissant à Dieu de n'avoir jamais été mis devant un film porno. Parce qu'à un moment donné, je me souviens, même quand j'étais enfant, de mon histoire, j'étais tenté de... J'avais 13 ans, je crois, j'avais une mobylette. Pour une fois, je pouvais m'éloigner de chez moi. J'étais tenté d'aller acheter une espèce de lui ou un truc comme ça, dans un... parce que j'étais pas à côté de chez moi. Et le fait de savoir que quelqu'un me regarderait l'acheter, l'importance de la communauté. Et j'étais pas spécial chrétien à l'époque, hein, rien à voir. Je suis pas allé. Alors ça veut pas dire que tout est simple. Ça veut pas dire que ça résout tout. Mais je suis reconnaissant de pas avoir mordu un petit peu. Et parce qu'après, c'est compliqué pour sortir. Je vais faire la parenthèse. Habitude donc de apprendre. L'habitude en question ici, c'est de participer à la vie communautaire. Donc elle peut se perdre. Et je mesure que la conserver peut demander un effort. On a beau se dire communément, par exemple, que faire du vélo, ça s'oublie pas. Mais si vous aviez l'habitude, il y a 10 ans, de faire 50 km de vélo par jour, là, si vous remontez sur le vélo aujourd'hui, ça ne va pas revenir tout seul. Et que l'auteur appelle à maintenir l'habitude montre que cela reste ou restera au moins un peu. Donc il dit, faites-le, donc ça vous engage. Il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité, de l'effort qui risque d'être impliqué. Alors le texte biblique n'en parle pas, mais j'ajouterai pour ma part qu'il y a aussi la pesanteur, si je puis dire, qui nous rend parfois plus facile d'aller dans un sens que dans un autre. Et l'effort n'est pas le même, en fonction justement de la communauté qui nous porte. Et je dirais plus largement, dans une société, qu'il s'agisse de la République française ou de la cour de récréation d'un collège ou d'un lycée, si c'est valorisé d'aller à l'église, c'était le cas à une époque, c'est plus facile d'y aller que quand la religion est méprisée ou présentée comme sans intérêt. Si la communauté sociale va dans un lieu de culte, c'est plus difficile de ne pas y aller. Autre exemple, dans une société qui valorise la collectivité, le collectif, les choix individuels, même le choix du mariage, par exemple, qui pour nous est extrêmement individuel, c'est pas les parents qui vont choisir pour nous, quoi, quelque part, on serait mal à l'aise, en général. Les choix individuels dans une société collective sont plus difficiles à poser. Et réciproquement. Dans une société puritaine, alors le mot est connoté négativement, mais les puritains, ce sont des protestants qui ont choisi de vivre leur foi au mieux possible. Des choix éthiques libéraux seront difficiles à assumer. Parce que la société est marquée par des valeurs chrétiennes, qu'on le veuille ou non, et c'est plus difficile de s'en écarter. Et dans une société où on valorise la consommation individuelle maximum, il va moins de soi de penser à donner ses biens à d'autres, de donner une part de ses biens. Ça représente un effort. Et c'est en même temps l'attachement à une communauté donc, qui nous permet de donner une assise à nos attachements. C'est la première remarque. Mobilité potentielle des habitudes et effort, souvent, pour nous. Deuxième remarque. L'auteur aux Hébreux est persuadé de l'importance de cette dimension communautaire. Et c'est, je le dis parce que je crois que le groupe peut constituer un vis-à-vis terrible quand on en subit l'oppression. Le groupe, c'est les deux choses, le groupe. Ça peut être un appui fantastique pour tenir alors qu'on ne tient plus tout seul. Ça peut être un appui fantastique pour apprendre. Et ça peut être aussi plus difficile. Un collègue a choisi à la fin de ses mails, c'est Jean-Marc Pilloux, pour ceux qui le connaissent, peu importe. Quand on est tout seul, on va plus vite. Quand on est en groupe, on va plus loin. Et on pourrait ajouter que la communauté, eh bien, c'est ce qui constitue une protection. Le texte le fait voir. Prenons garde l'un à l'autre, dit le texte. Et j'ai envie de vous donner cette image qu'on trouve à l'entrée, en tout cas de Villefontaine. Hein. Ayons soin les uns des autres. Quand vous vous faites pirater votre mot de passe Internet, votre messagerie, ça fait plaisir d'avoir tout de suite, c'est arrivé à ma sœur il y a un mois, sur votre répondeur téléphonique, 30 coups de téléphone. Il faut les écouter tous après. Parce que des personnes vous connaissent et elles ont vu qu'il y a quelque chose de bizarre dont vous n'étiez peut-être pas conscient. Et elles vous alertent, elles ont souci de vous. C'est juste ça. Et là aussi, c'est grâce aux autres que nous sommes ce que nous sommes. Et si l'époque est à l'individualisme, j'ai dû sauter une diapo, oui, c'est ça. Si l'époque est à l'individualisme, à l'idée qu'on peut se faire tout seul, eh bien je crois que c'est juste faux. Personne ne se fait tout seul. Et je crois qu'il en va de même pour la vie chrétienne. C'est parce que nous trouvons un groupe de personnes désireux d'être attachées à Jésus, désireux de lire la Bible, désireux de prier, ou désireux plus ou moins, parce qu'on a envie, mais en même temps on n'a pas trop envie parfois, mais c'est parce qu'il y a d'autres qui ont envie aussi. On a besoin de personnes qui ont envie pour avoir envie avec eux. Ça nous aide à avoir envie. C'est parce qu'on a le besoin de partager ces fardeaux que le groupe vient nous aider à tenir. C'est parce qu'il y a une communauté et parce que nous sommes attachés à elle que nous pouvons apprendre et nous aider les uns les autres. Je le dis pour la lettre aux Hébreux, mais ça vaut pour évidemment toute chose. Hein. L'association a une communauté apprenante, a une communauté de passionnés. Ça peut être des philatélistes, ça peut être des... Alors après, il y a toute la liste des trucs qu'on collectionne, là, et puis avec des noms techniques un peu compliqués. Hein. Mais être dans ce groupe-là, c'est porteur, c'est motivant. Et nous savons, je crois, enfin, je sais pas, mais quand on est dans un groupe d'habitués, et puis bon, même autour de la Bible, et puis il y a quelqu'un qui arrive dans le groupe, un nouveau, qui connaît rien de rien, et qui commence à poser des questions. Et tout à coup, souvent à cause de son goût, à cause de son intérêt, c'est comme si on redécouvrait des choses qu'on dirait le Seigneur est mon berger. Bon, okay. Mais non, il y a quelque chose là qui tout d'un coup qui nous rejoint, parce que quelqu'un pose une question, parce que quelqu'un a soif. Et je crois qu'il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, sauf à mettre à côté un âne qui a soif. Et j'ai souvent été l'âne qui n'a pas soif. Deuxième remarque, donc l'importance de cette dimension communautaire. Et puis, le dernier aspect, c'est la façon de prendre le texte, je le reprends. Je dirais que ce texte me semble souvent mis au service d'invitations culpabilisatrices, du style « c'est mal de ne pas aller à l'église ». Ça, c'est le bâton. Ou bien, mais on le dit maintenant d'une autre façon, mais c'est en mode épanouissement personnel, « c'est dommageable pour vous de perdre l'habitude d'aller à l'église ». Ça, c'est la carotte. Et on pourrait rajouter la logique, entre guillemets, qui va dans le même sens, et qui consiste à dire que si nous sommes soucieux que d'autres viennent à la foi, si nous sommes soucieux d'évangélisation, eh bien il est d'autant plus important d'être part, au moins un peu, d'une vie communautaire. Parce que si celui qui cherche n'a pas de communauté devant lui, donc s'il ne voit pas vivre des personnes qui sont chrétiennes, au moins un petit peu, mais comment est-ce qu'il peut voir ce qu'est la foi chrétienne? Qu'est-ce qu'il peut en savoir? Bon, il nous voit vivre, d'accord, mais il a besoin aussi de voir d'autres vivre. Vivre sa vie spirituelle tout seul, c'est probablement en partie illusoire. Comment s'aimer les uns les autres? Franchement, je suis tout seul dans mon appartement, je suis encouragé à aimer les uns les autres. Et ça s'adresse à une communauté chrétienne. Bon, il y a le téléphone, voilà, il y a d'autres choses. Mais si mon attachement au Christ ne se traduit pas aussi par l'association à une communauté chrétienne, ceux qui nous verront vivre, enfin, quel impact nous aurons seuls sur ceux qui nous voient vivre? Et c'est déjà vrai pour nos enfants. Si nous leur disons, si nous sommes tout seuls, nous vivons dans notre château là, avec le pont-levis levé, si nous disons que la foi c'est super important, etc., mais quelle image nous leur donnons de la foi s'ils ne nous voient jamais déjà dans notre château ouvrir notre Bible, prier, et s'ils ne nous voient jamais aussi vivre avec d'autres, en relation avec d'autres, s'ils ne sont pas en prise avec ces lieux de transmission de foi, mais que nous préférons les inscrire au cheval, à l'escrime, et puis la liste de bonnes choses, je n'ai pas forcément de soucis avec le cheval ou l'escrime. Et je sais aussi que certains, pour plusieurs d'entre nous, mon intention, c'est pas de culpabiliser, parce que plusieurs d'entre nous ont fait à l'époque d'autres choix. J'entends bien ça. Mais c'est parce que des chrétiens vont à l'église que des non-chrétiens peuvent savoir qu'il existe un christianisme et qu'il existe une église et qu'ils peuvent s'intéresser. Donc, le dernier aspect, c'est que le texte est souvent mis donc au service. On l'utilise en se servant du bâton, en se servant de la carotte, et puis de la logique. Et bon, ceci dit, pour ma part, la logique, au moins, je serai prêt à la valider. Oui, il y a quelque chose de vrai là. Ça a juste pas de sens. Je peux pas apprendre à jouer au ping-pong si je vois pas s'il y a pas des gens qui jouent au ping-pong. C'est juste pas possible. Et Et donc, a fortiori pour la foi. Ceci dit, j'attire notre attention sur le fait que le texte, il ne fonctionne pas. Donc, la logique, entre guillemets, elle n'est pas là. Il ne s'étend pas là-dessus. Mais il n'y a pas dans le texte, à mon sens, de culpabilisation ou de... Il n'y a pas de bâton et il n'y a pas de carotte, il me semble. Parce que si on reste plus près du texte original, en fait, c'est ce qui est projeté, mais j'attire votre attention sur les verbes. Alors, oui, j'aurais dû... Après, d'une part, ce n'est pas une invitation qui est donnée à des personnes qui ne viennent plus à l'église. Donc c'est pas des personnes telles que ça se présente. C'est pas quelqu'un, il nous dit pas, allez visiter tous ceux qui viennent plus à l'église et dites-leur que c'est mal ou que c'est dommageable ou etc. Donc c'est des personnes qui, c'est adressé à des personnes qui viennent dans la communauté. J'ai dit à l'église, ça voulait dire dans la communauté. Et d'autre part et surtout, et j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, le verbe principal, l'invitation principale, c'est à veiller les uns sur les autres. Et abandonner, tout comme encourager, ce sont des participes. Et ils apparaissent en fait comme deux façons de veiller ou de ne pas veiller les uns sur les autres. Je le dis autrement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de dire aux absents, c'est pas bien d'être absent, vous vous privez de quelque chose. Il s'agirait plutôt de dire, en premier lieu, vous nous privez de votre exhortation en étant absent. Vous nous privez de votre protection. Et en tout cas, pour ma part, je ne lis pas le texte, ça ne fait pas le même effet pour moi. Alors évidemment, quand on dit vous nous privez, ça peut être dit de manière très culpabilisatrice aussi, j'entends bien. Mais je suis porté à penser qu'ici, il s'agit de dire... Finalement, ce que j'essayais d'illustrer avec toute l'introduction, c'est que dans l'Église, en fait, dans la communauté, de façon générale, chacun compte. Chacun contribue potentiellement, en tout cas, par son attention aux autres, même s'il n'a pas un rôle spécifique, forcément, par son engagement, par sa juste présence. Aller au concert, il y a 1000 personnes dans la salle et il y a 5 personnes dans la salle. C'est pas pareil, hein. Par son engagement, chacun contribue par son expérience, par son amour pour Dieu, par la façon de le dire. Chacun contribue aussi par sa façon même de traverser la souffrance. Chacun contribue par la façon dont il entend les critiques et dont il les accueille. Chacun contribue par son encouragement à une contagion. Dans un sens ou dans un autre. Chacun peut contribuer, juste en étant là, à une contagion vers le bien. Il contribue en tout cas, chacun d'entre nous, nous contribuons à composer une communauté, une équipe, juste par sa présence, juste par sa simple fidélité, par sa constance. Mais ce qui me frappe, c'est que surtout aujourd'hui où j'ai l'impression où on valorise beaucoup le spectaculaire, l'événement, l'event, là il y a telle personne qui passe dans la région, il faut aller l'écouter, ou tel concert, là c'est le truc, j'ai pas forcément de soucis par rapport à ça. Souvent ça peut être bouleversant pour nous. En même temps, je tiens notre attention sur le fait des choses qui sont très ordinaires, qui se marquent pas forcément sur le moment, mais qui sont là au fil du temps. La croissance de personnes que Dieu a transformées au fil du temps. Et je vois, et je pourrais donner des noms de personnes que j'ai vues grandir, enfin, que je qualifierais de grandir dans la communauté, qui étaient parfois très, très raides et des choses ont bougé pour eux. Rien de spectaculaire, ça se voit pas d'un dimanche à l'autre. Mais au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, des choses se passent. Rien de spectaculaire, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit spectaculaire? Mais un habitus d'être là, un habitus de service, des choses très ordinaires, venir déjà, s'intéresser aux autres, chercher avec eux à vivre dans la crainte de Dieu. Et je crois que c'est pertinent de l'entendre à une époque individualiste, où nous savons difficilement faire communauté. Et je suis frappé, ça peut être d'autres raisons, psychologiques ou autres, de voir combien d'entre nous on a un souci, on n'ose pas demander. Et parfois parce qu'on craint l'autre, ça s'entend aussi. Mais en même temps, on peut avoir aussi un regard en disant, mais l'autre, il sera très heureux de m'aider, justement. Quand on me demande de l'aide, moi, qu'est-ce que je fais? Pas toujours, mais ça me fait plaisir de rendre service. Mais il se passerait la même chose pour l'autre si nous demandions. Qu'est-ce qui nous a fait apprendre à vivre comme ça? Je me dis que parfois nous avons l'impression de n'être aussi, c'est un peu ma tendance, que des gouttes d'eau, quoi. Pas beaucoup d'importance, une goutte d'eau. Ah, j'ai raté une diapo. Et nous avons l'impression de ne pas avoir d'importance dans la rivière. Mais qu'est-ce que c'est qu'une rivière si ce n'est pas ces gouttes d'eau qui sont les unes à côté des autres, qui forment corps? La rivière ne serait pas rivière sans ça. Et si on enlève une goutte d'eau, si on prend quelque chose et on enlève une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, la rivière n'a pas la même. N'a pas le même impact, ne se présente pas de la même façon. Il n'y a plus de rivière. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter, pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de le faire. Mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Je vous pose juste un moment de recueillement, de silence. En terminant, Seigneur, je veux te dire merci pour ma part, en pensant à plusieurs qui ont joué un rôle dont je suis conscient dans ma vie. Tous ceux qui ont été des parents, mais en étant des vrais parents, si je puis dire, ou tous ceux qui ont joué pour moi le rôle de parent, le rôle d'appui dans la communauté, Et je crois que nous en avons tous, chacun d'entre nous, des personnes qui parce qu'ils nous ont accueillis dans leur communauté, dans leur voisinage, dans leur groupe, nous donnent d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie, Seigneur, me confiant à toi, en nous confiant tous à toi, aide-nous à faire corps, à faire communauté avec les nôtres, autant que nous pouvons, en famille, si nous sommes en famille, en communauté chrétienne, autour de Jésus-Christ. Merci de nous porter les uns et les autres, d'accompagner chacun d'entre nous dans sa quête de toi, dans son besoin de communauté. Merci Seigneur de mettre côte à côte ces gouttes d'eau et de leur donner de faire courant, de faire rivière. Nous te bénissons de ton amour, tu t'es donné pour nous, pour que nous fassions avec toi, communauté. Tu nous appelles tes enfants, tu nous appelles fils et filles, frères et sœurs.